Les étapes pour vaincre le péché. Étude numéro 011. Les étapes pour surmonter le péché analysent la relation entre le péché et l'Exode durant la fête des pains sans levain. Ces leçons sont développées. À chaque saison de la Pâque, nous réfléchissons à l'Exode d'Israël d'Égypte. Dieu a sorti Israël avec une main forte. Ils ont été triomphants, délivrés par la puissance de Dieu. L'Égypte était en grande partie en ruine. Pourtant, ce n'est que peu de temps après qu'Israël ait quitté l'Égypte qu'une chose prévue par Dieu, mais inattendue par Israël, s'est produite. Nous lisons dans Exode chapitre 14, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils ont égaré dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Version Louis II. Dieu savait que Pharaon et son armée allaient poursuivre Israël. Nous lisons dans Exode 14, versets 5 à 13. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Version Louis II. Les Israélites étaient terrifiés lorsqu'ils ont remarqué que l'armée du Pharaon les poursuivait. Cependant, les versets 15 à 31 expliquent comment Dieu a détruit l'armée égyptienne dans la mer. Mais l'affaire ne s'est pas terminée là. Paul récapitule les 40 ans du vagabondage d'Israël qui ont suivi dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Version Louis II. Nous voyons donc quelque chose de très intéressant. Le départ d'Israël d'Égypte, comme nous le comprenons, était une sorte de notre départ du péché et du système du Dieu de ce monde, Satan. Pharaon, bien sûr, était une sorte de Satan. En fait, il était le pion de Satan. Mais après qu'Israël ait quitté l'Égypte, Pharaon les a poursuivis. Dieu a détruit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Dieu a sorti Israël d'Égypte. mais il n'a pas sorti l'Égypte d'Israël. Ils ont péché, ils ont échoué et ont manqué la marque de l'obéissance, parce que l'Égypte était toujours dans leur esprit, et parce que le dirigeant invisible de l'Égypte, Satan, n'a cessé de les pousser et de les inciter à pécher. Cela était vrai même après qu'ils aient quitté l'Égypte et aient été baptisés en Moïse dans la mer. Paul utilise cet exemple d'Israël à titre de leçon pour les chrétiens. Reprenons le contexte. Nous lisons dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Version du second. Le verset 27 mène directement au verset 1 du chapitre 10. Paul utilise l'exemple d'Israël comme un avertissement pour ne pas courir notre course en vain. 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12, nous lisons « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des âges. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Version du second. Si vous pensez que vous êtes debout, dit Paul, prenez garde de ne pas tomber. Comment pourrions-nous tomber de la grâce de Dieu ou du pardon de notre passé et de péché dans le sacrifice de Christ? En tombant dans le même genre de problème qu'Israël a fait quand ils ont laissé la mentalité qu'ils avaient acquise en Égypte dominer et prendre le contrôle de leur pensée. Ce que nous devons réaliser, affronter, c'est que, bien que Dieu nous ait fait sortir hors d'Égypte, il n'a pas sorti l'Égypte ou le péché de notre nature. De même que Pharaon a poursuivi Israël, de même le péché nous poursuivra. De même que la mentalité de l'Égypte était toujours présente dans les cœurs et les esprits d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le désert, et que cela a conduit au renversement de tous ceux âgés de plus de 20 ans, l'esprit ou la puissance du péché est toujours présent dans notre nature, et pourrait conduire à notre renversement si nous ne sommes pas diligents. De plus, Dieu a vaincu Pharaon, mais Dieu a laissé le dirigeant de Pharaon, Satan, continuer à l'arrière-plan, et ainsi a alimenté cette mentalité de l'Égypte qui était toujours en Israël. Nous devons d'abord comprendre que le péché n'est pas juste la transgression de la loi de Dieu. Le péché est plutôt une puissance vivante et dynamique, une force qui réside dans la nature humaine. Paul l'a décrit comme une loi. Nous lisons dans Romains 7, versets 21-23, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Version du second. L'apôtre Jean a été inspiré pour écrire, nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Entre parenthèses, est la preuve que vous n'avez pas idée de la vérité, selon la version Barclay. Paul, bien sûr, a écrit après de nombreuses années de vie chrétienne, et Jean approchait la fin de sa vie autour de l'an 90 de notre ère. Même après tout ce temps, ils ont tous deux reconnu qu'ils avaient une bataille continuelle ou combat permanent contre le péché. Le problème est que le baptême et le repentir et même la réception de l'Esprit de Dieu n'enlèvent pas le principe du péché, comme Paul l'a dit, de notre nature. Cela reste comme une puissance ou une force dynamique à l'œuvre en nous. Le péché est comme un cancer. Il existe des cancers qui dévorent littéralement le corps. Ils rongent et parviennent à détruire autant les tissus tendres que les tissus durs, et même les os, s'ils ne sont pas examinés. C'est un processus similaire à celui du péché. Ce qui peut commencer comme un petit problème peut finir par devenir un problème majeur. Et si nous ne faisons pas attention, un problème fatal dans le sens où nous échouerons d'être dans la première résurrection. Paul a décrit le processus en utilisant l'analogie du levain. Nous lisons dans Galates 5, verset 9, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Version du second. Et Galates 5, verset 9 dans la version Barclay, une fois qu'une minuscule infection pénètre dans une société, elle se propage jusqu'à ce que toute la société devienne infectée. Le levain, ou la levure, est un organisme vivant. Il peut représenter l'esprit positif de Dieu ou les choses négatives de l'esprit de Satan. Comme le levain est un organisme vivant, il croît et se développe et se répand rapidement dans toute la pâte.
changeant et assimilant à sa propre nature la pâte originale avec laquelle il est mélangé. Lorsque nous venons à Dieu et que nous sommes baptisés, notre vie est considérée comme sans levain par Dieu. Voir 1 Corinthiens 5, verset 7. Et à Dieu nous donne alors le nouveau levain de son esprit. C'est ce levain que nous devons laisser croître et se multiplier en nous. Mais les spores du péché résident toujours dans notre nature. Et si nous n'y prenons pas garde, elles peuvent aussi croître, se multiplier et se propager dans notre vie en leur donnant les bonnes conditions. Bien sûr, ce n'est pas entièrement notre problème que de devoir combattre le pouvoir destructif du péché. Satan est là, incitant activement et concevant le péché. Satan est celui qui donne au péché sa vie et son énergie. Satan est celui qui diffuse les pensées, les attitudes, les convoitises et les tentations qui éveillent en nous le désir de transgresser les lois de Dieu. Et ainsi nous péchons. Voir Éphésiens 2, verset 2. Ce que cela signifie, c'est que nous sommes engagés dans une bataille contre le péché. Et ce, sur deux fronts. Nous devons lutter contre les convoitises de notre propre chair. Nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Version Louis II. D'autre part, nous devons également résister à l'auteur du péché, Satan le diable. Nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Version Louis II. Et nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9. « Vous devez être sobre, entre parenthèses modéré, dans le manger et le boire. Vous devez être sur le qui-vive. Votre ennemi, le diable, rôde autour, comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Vous devez lui résister avec une foi de roc, et vous devez vous rendre compte que tant qu'ils sont dans le monde, tous les membres de cette fraternité chrétienne dont vous faites partie doivent jusqu'à la toute fin éprouver la même sorte de souffrance. » Entre parenthèses, traduction de la Barclay. Ainsi, nous avons en nous deux natures. La nature divine de Dieu communiquée par l'Esprit de Dieu et qui veut nous amener à rechercher la justice et obéir à la loi de Dieu. Et la nature pécheresse que nous avons à l'origine acquise de Satan et qui reçoit de lui sa force et sa vie en permanence. Ces éléments coexistent côte à côte en nous, mais ils sont diamétralement opposés. Entre parenthèses, voir Romains 7, verset 7 à 25, Galates 5, verset 17. Nous lisons dans Galates 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Version Louis II. Et Galates 5, verset 17 dans la version Barclay. Car les désirs de notre nature plus basse ou pécheresse vont à l'encontre des désirs de l'esprit, et les désirs de l'esprit vont à l'encontre des désirs de la nature plus basse ou pécheresse. Les deux sont, de manière permanente, opposés l'un à l'autre, et le résultat est que les choses mêmes que vous voulez faire sont les choses mêmes que vous ne pouvez pas faire. Version Barclay. Pour chacun d'entre nous, la vie tourne autour d'une bataille, la bataille dans notre esprit, entre ces deux natures. Cependant, il y a une clé pour gagner cette bataille. Celle-ci est que nous devons alimenter, nourrir la nature spirituelle divine et affamer, faire mourir de faim, la nature pécheresse. Nous avons déjà vu la preuve de cette clé dans 1 Pierre 2, verset 11. Mais dans Galates 5, verset 16, Paul nous donne les mêmes instructions de combat. Nous lisons dans Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Version Louis II. Galates 5, verset 16 dans la version Barclay. « Ce que je veux dire est cela, faites de l'esprit l'autorité de votre vie, et vous ne serez jamais ensuite à la recherche pour satisfaire les désirs de votre nature plus basse ou pécheresse. » Version Barclay. Nous allons maintenant discuter de plusieurs façons d'alimenter la nature spirituelle, puis examiner un certain nombre de moyens d'affamer, de faire mourir de faim la nature pécheresse. Alimenter la nature spirituelle. 1. Étudier la Bible. Quand Jésus a affronté la source de la nature pécheresse, Satan le diable, dans la tentation dans le désert, Jésus savait où se trouvait sa force. Nous lisons dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Version Louis II. Et Matthieu 4, verset 4, dans la version BDS-IBS, « Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Et Matthieu 4, verset 4, dans la version Barclay, Jésus a répondu, « L'Écriture dit, il faut plus que du pain pour garder un homme en vie. La vie de l'homme dépend de chaque parole que Dieu prononce. Notre objectif dans l'étude de la Bible devrait être de tellement de saturer et d'imprégner nos esprits des pensées de Dieu à tel point que chaque fois que nous sommes mis au défi de pécher en pensée ou en action, nous avons instantanément une réponse de la Bible pour combattre la tentation. C'est pourquoi la Bible est décrite comme l'épée de l'esprit ou de la nature spirituelle que Dieu développe en nous. C'est notre première arme dans la bataille. Voir Éphésiens 6, verset 17. Deuxième point, priez tout le temps. Paul nous dit dans Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Version du second. Et dans la version Philips, « Maintenez fermement l'habitude de prier. » Les chrétiens sont constamment exhortés d'aller à Dieu dans la prière, à propos de tout. Voir Éphésiens 6, verset 18, Philippiens 4, verset 6, Romains 12, verset 12, Colossiens 4, verset 2, 1 Pierre 4, verset 7, etc. L'Esprit de Dieu vient du Père. Voir Jean 14, verset 16, verset 26, Jean 15, verset 26. Ce n'est qu'en passant du temps avec Dieu, notre Père, dans la prière, que nous recevons davantage de son Esprit, et cela alimente la nature spirituelle que Dieu a placée en nous. Troisième point, méditer. David a été inspiré pour enregistrer, nous lisons dans Psaume 119, verset 97 à 99, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Version Louis II. Nous sommes en guerre dans une bataille. Par la méditation, qui est l'assimilation et la digestion active de la Bible, nous pouvons devenir plus sages que la nature pécheresse qui est en nous et son instigateur Satan. Nous en viendrons à comprendre sa stratégie de bataille. Nous parviendrons à voir comment l'en empêcher à divers points. Nous saurons comment le traiter lorsque Satan lancera une attaque totale. De plus, plus notre esprit pense, réfléchit, s'attarde sur les choses de la parole de Dieu, moins il y aura d'opportunités pour Satan d'entrer et moins il y aura de place pour les désirs qui mènent au péché d'occuper nos pensées. Quatrième point, buvez, absorbez les sermons et les études bibliques. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau dans ces points que nous avons couverts. Ils sont basiques, mais ils sont fondamentaux. Une meilleure stratégie de bataille demeure encore à être élaborée. Pour gagner la bataille spirituelle, il est essentiel d'assister régulièrement au service de sabbat, quand c'est possible, et d'écouter et d'assimiler les messages donnés. Les anciens sont chargés d'une responsabilité sérieuse de nourrir le troupeau qui leur a été confié. Nous lisons dans Acte 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. » Version Louis II. 1 Pierre 5, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Version Louis II. Les anciens sont vos serviteurs et les aides de votre joie. 2 Corinthiens 1, verset 24. Cinquième point, fraternisez avec les gens de Dieu. La fraternisation avec d'autres personnes qui pensent comme nous est essentielle si nous voulons gagner les batailles contre le péché auquel nous sommes confrontés. Paul a écrit, Hébreux 3, verset 13, nous lisons, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Version du second. Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Version du second. Si nous comprenons ces passages dans leur contexte, il semble que Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, faisait allusion à certains qui devenaient négligents dans l'assistance aux réunions de sabbat. Bien sûr, le sabbat est un jour d'assemblée commandée, là où c'est possible. Nous lisons dans Lévitique 23, verset 3, « On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Version du second. Le fait est que nous avons besoin les uns les autres. Dieu n'appelle pas les chrétiens à s'isoler. Nous sommes appelés à être membres du corps de Christ, chaque membre accomplissant sa part et travaillant avec les autres membres pour édifier, construire le corps entier dans l'amour. La stratégie de Satan est de nous isoler et de nous attaquer au moment où nous sommes le plus vulnérables. Sixième point, grandir dans l'Esprit de Dieu. Contrairement aux opinions de certains qui pensent qu'on a l'Esprit de Dieu ou qu'on ne l'a pas, et qu'il n'est pas important de se demander combien de mesures de l'Esprit de Dieu nous avons. La Bible montre clairement que l'Esprit de Dieu est quelque chose qui peut grandir en nous. L'essentiel est que, en tant qu'extension de la puissance et de l'essence de Dieu dans nos esprits et dans nos vies, c'est ce qui nous donnera la victoire pour surmonter le péché et Satan. L'Esprit de Dieu est une essence de force, d'amour et d'autodiscipline. De Timothée 1, verset 7. L'Esprit de Dieu doit être remué, entre parenthèses, ou éventé comme une flamme est éventée en nous, voir le verset 6. Dans chaque prière, nous devrions demander à Dieu de nous donner une portion renouvelée de son esprit, afin que nous puissions en être remplis. Nous lisons dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Version du second. Cependant, ce n'est pas suffisant de simplement nourrir notre nature spirituelle qui nous a été donnée par Dieu. Nous devons aussi travailler à faire mourir de faim la nature pécheresse qui est en nous, et ainsi priver Satan de tout pouvoir sur nos vies. Affamer la nature pécheresse. 1. Contrôlez vos désirs naturels. Dieu veut que nous profitions de la vie. C'est pourquoi Dieu nous a donné nos sens physiques et notre capacité à se projeter, à planifier, à raisonner, à éprouver le plaisir des accomplissements, et ainsi de suite. Cependant, si nous ne contrôlons pas nos désirs, mais que nous laissons nos sens physiques ou nos émotions s'exprimer sans contrôle, nous risquons alors de céder à la nature pécheresse quand notre garde est baissée. Nous devons profiter de la vie, mais aussi vivre de manière modérée et équilibrée. Nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 6, « À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. » Version du second. Deuxième point, fuyez la tentation. Un deuxième domaine vital pour affamer, faire mourir de faim la nature pécheresse est de fuir la tentation lorsqu'elle se présente. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, Paul a donné l'instruction spécifique en ce qui concerne la fornication, mais bien sûr, le principe s'étend à tous les domaines de la vie. Dans Colossiens 3, verset 5, Paul indique clairement que nous devons mettre à mort ce qui résulte de notre nature pécheresse. Colossiens 3, verset 5, nous lisons « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Version du second. Jésus a donné un avertissement tout aussi puissant et urgent dans son enseignement d'arracher notre œil ou de nous couper la main, métaphoriquement parlant, s'il nous pousse à pécher. Voir Matthieu 5, versets 29 à 30. Nous devons nous reprendre lorsque nous accordons un second ou troisième regard sur certaines situations que nous savons être mauvaises. Car s'il en est ainsi, nous alimentons notre nature pécheresse et faisons le jeu de l'ennemi. Nous devrions plutôt nous saisir par le col et nous éloigner de force d'une telle situation. Troisième point, amener toute pensée en captivité. Paul nous y exhorte, nous lisons dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Version du second. Cela exigera un degré élevé de discipline de notre part. Mais nous devons garder la porte de notre esprit et ne laisser entrer que ce qui est bon et droit aux yeux de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Satan cherchera toutes les occasions de glisser dans des rationalisations et des diversions pour détourner nos esprits de la tâche d'affamer, de faire mourir de faim la nature pécheresse. Quatrième point, contrôlez votre tempérament. Bien que nous soyons tous enclins à la colère, certains types de personnalités ont la difficulté à la contrôler. De tels gens se fâchent facilement et ils ont souvent beaucoup de mal à relâcher leur colère. Une fois que la colère s'est enflammée. Comprendre la dynamique de la colère et savoir comment la gérer, maîtriser de façon pieuse, est un grand sujet. Entre parenthèses, voir le document d'étude de la colère numéro 061. Cependant, pour le moment, nous devrions noter ce que la Bible nous dit. Nous lisons dans Jacques 1, verset 19 à 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Version du second. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Version du second. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Version du second. Galates 5, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, version du second. La Bible est claire sur le fait que la colère est, dans la plupart des cas, une œuvre de la nature pécheresse. Entre parenthèses, il existe cependant une colère qui est juste, telle que celle que Christ a démontrée quand il a chassé les changeurs d'argent hors du temple. Mais la plupart de la colère que les gens éprouvent n'est pas de cette sorte. Nous éprouvons de la colère parce que nous avons été offensés ou contrariés ou dérangés, etc., non parce que le nom de Dieu a été calomnié. En outre, il est clair que si elle n'est pas contrôlée, cette colère ouvrira une brèche à Satan dans nos esprits. Éphésiens 4, versets 26 à 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Version du second. Outre la douleur et la souffrance que la colère introduit dans nos relations avec les autres, la colère laisse aussi une porte grande ouverte à Satan pour entrer et nous attaquer. Nous devons développer un esprit alerte, une tête froide, et une disposition d'esprit stable, de même qu'une attitude de compassion et de pardon. Cinquième point, n'aimez pas le monde. Ce monde est le terrain de jeu de Satan. C'est un monde spécifiquement conçu pour nous éloigner de Dieu, un monde de distraction et de tromperies astucieuses. Cependant, la Bible nous dit de ne pas aimer ce monde. Nous lisons dans 1 Jean 2, versets 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Version du second. 1 Jean 2, verset 15 à 16 dans la version Barclay. Vous ne devez pas être amoureux du monde et des choses du monde. Personne ne peut être amoureux du monde et amoureux de Dieu en même temps. Tout ce qui est caractéristique du monde, les désirs des passions, la façon par laquelle la vue de ce que nous n'avons pas eu allume nos désirs pour cela, la fascination de mauvais goût pour la vie de ce monde a sa source non pas dans le Père, mais dans le monde. Traduction de la Barclay. Nous avons plutôt besoin d'être transformés. Nous lisons dans Romains 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Version du second. Et Romains 12, versets 1 à 2 dans la version Barclay. « Donc, frères, je vous recommande vivement, par les actes de miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps à Dieu, comme un sacrifice consacré et vivant, qui enchantera le cœur de Dieu, car c'est la seule adoration qu'un être raisonnable peut offrir à Dieu. Arrêtez de toujours essayer d'ajuster votre vie aux voies du monde. Vous devez développer une nouvelle attitude face à la vie. Votre perspective mentale entière doit être radicalement changée pour que vous soyez capable de décider ce qu'est la volonté de Dieu et de savoir ce qui lui est bon et agréable et parfait. » Version Barclay. Si nous aimons le monde, nous ne faisons pas mourir la nature pécheresse et nous finirons par perdre la bataille entre les deux natures en guerre en nous. Conclusion. Les lignes de bataille sont clairement tracées. Le péché est plus sinistre et plus répandu que le simple acte occasionnel de désobéissance à la loi de Dieu. Le péché est une puissance ou une force active à l'œuvre dans nos esprits et nos corps, recevant sa vie et son énergie de l'auteur du péché et le trompeur par excellence, Satan le diable. Vaincre, surmonter, est un processus qui consiste à nourrir la nature de Dieu en nous et à affamer, à ne pas alimenter la nature charnelle pécheresse. Cela exige de l'autodiscipline et un effort constant. Cependant, nous ne devons jamais perdre courage. Jésus a vaincu le monde avant nous. Et Jésus nous donnera toute l'aide, la puissance et l'encouragement dont nous avons besoin pour faire de même. Son sacrifice est sûr pour toujours, et Christ couvrira tous les péchés que nous commettrons. Nous sommes entre les mains de son Père et entre ses mains. Ensemble, ils ne nous laisseront jamais partir ou nous permettre d'être perdus. Si nous avons les yeux fixés sur Dieu, et si nous nous tournons vers l'exemple que Jésus nous a donné, si nous faisons appel à Dieu pour son esprit, et si nous nous soutenons et nous nous encourageons les uns les autres, nous gagnerons la bataille. La victoire est assurée. Fin de la lecture de l'étude « Les étapes pour vaincre le péché » numéro 011.